VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 27 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Rosine Monedero.
On commence par le sommaire.
L'archevêque Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix et vétéran de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, est décédé à l'âge de 90 ans.
Une pluie d'hommages a suivi la mort de Desmond Tutu. Les obsèques sont prévues samedi au Cap.
Deux nationales au Burkina Faso après la mort de 41 personnes dans une nouvelle attaque.
En Somalie, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed a suspendu le premier ministre Mohamed Hussein Roblé sur fond de conflit électoral.
Ne manquez pas dans un quart d'heure notre page sport présentée par Élisée Ounkpati.
Pour l'instant, le journal.
En Afrique du Sud, le Monseigneur Desmond Tutu est mort dimanche à 90 ans. L'archevêque anglican, prix Nobel de la paix, était une icône de la lutte contre l'apartheid, extrêmement respectée dans le pays. Patricia Huron est à Johannesburg.
L'annonce du décès de Desmond Tutu a été accueillie avec une profonde tristesse en Afrique du Sud. Même si les Sud-Africains s'y étaient préparés, ils savaient que Desmond Tutu avait la santé fragile depuis plusieurs années. L'archevêque s'était retiré de la vie publique, mais jouissait toujours d'énormément de respect et de sympathie dans le pays. Depuis hier, de nombreux hommages lui sont rendus. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que la mort de l'activiste de la lutte anti-apartheid était, je cite, « un nouveau chapitre de deuil dans l'adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée. » Desmond Tutu était connu pour son intégrité et son franc-parler. Il a lutté toute sa vie contre les injustices, contre le régime d'apartheid d'abord, qu'il a dénoncé sans relâche tout en prônant la non-violence. Il a ensuite lutté pour la réconciliation dans son pays, convaincu qu'il n'y aurait pas d'avenir possible sans pardon, et a continué à dénoncer les inégalités sociales ou encore la corruption. Ses convictions étaient fermes. Avec son décès, l'Afrique du Sud perd une icône et une autorité morale. Certains disent que le pays vient de perdre sa conscience. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Monseigneur Tutu, la conscience de l'Afrique du Sud, mais aussi une espièglerie, un riz puissant a tiré sa révérence. Jusqu'à son dernier souffle, le prix Nobel de la paix a imposé sa petite silhouette ronde et son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Gaby Dorsil nous parle de l'homme.
C'est le dernier de cette génération d'icônes de la lutte contre l'apartheid. Desmond Tutu avait acquis sa notoriété aux pires heures du régime raciste. Alors prêtre, il organise des marches pacifiques contre la ségrégation et plaide pour les sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria. À la différence de nombreux autres combattants, seule sa robe lui épargne la prison. Son combat non violent avait été couronné du prix Nobel de la paix en 1984. Après l'avènement de la démocratie en 1994 et l'élection de son ami Nelson Mandela à la tête du pays, Tutu, qui a donné à l'Afrique du Sud le surnom de « nation arc-en-ciel », avait présidé la commission Vérité et Réconciliation qui, espérait-il, devait permettre de tourner la page de la haine raciale. Après la fin de l'apartheid, fidèle à ses engagements, il était devenu le pourfendeur des dérives du gouvernement de l'ANC, critiquant les errements de l'ancien président Thabo Mbeki dans la lutte contre le sida, mais aussi la corruption.
Une pluie d'hommages a suivi la mort de Desmond Tutu à travers le monde. Les obsèques sont prévues samedi au Cap. Le point des réactions avec Eric Manirakidza.
La fondation Mandela a qualifié sa perte d'incommensurable. C'était un être humain extraordinaire, un penseur, un leader, un berger. Le président Uhuru Kenyatta a estimé que le décès de l'archevêque Desmond Tutu est un coup dur non seulement pour la République d'Afrique du Sud, mais aussi pour tout le continent africain. Le Dalai Lama a salué un grand homme qui a vécu une vie pleine de sens, entièrement dévoué au service de ses frères et sœurs. Desmond Tutu a été une source d'inspiration pour des générations dans le monde entier et un guide lumineux pour la justice sociale, pour la liberté et la résistance non violente, a déclaré dimanche le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le chef spirituel des Anglicans et archevêque de Canterbury, Justin Welby, dans les yeux de Desmond Tutu, nous avons vu l'amour de Jésus. Dans sa voix, nous avons entendu la compassion de Jésus. Dans son rire, nous avons entendu la joie de Jésus. C'était beau et courageux. Le pape François s'est déclaré attristé par cette perte. Le souverain pontife recommande son âme à la miséricorde aimante de Dieu Tout-Puissant.
Dimanche soir, Joe et Jill Biden, disant avoir le cœur brisé, ont estimé dans un communiqué que l'exemple de l'archevêque anglican décédé dimanche à 90 ans transcende les frontières et trouvera un écho à travers les âges. Le couple présidentiel américain a aussi évoqué le pouvoir du message de justice, d'égalité, de vérité et de réconciliation porté par Desmond Tutu. Une semaine de deuil est observée de lundi jusqu'aux obsèques samedi au Cap.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, le kamikaze qui a déclenché sa bombe le jour de Noël à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a tué 7 personnes et en a blessé 20, selon le nouveau bilan communiqué dimanche par les autorités. Le premier bilan officiel samedi faisait état de 5 personnes tuées dans l'explosion provoquée par le kamikaze dans un restaurant du centre de Beni, dans la province du Nord Kivu.
Les autorités ont immédiatement accusé les rebelles des forces armées, des forces démocratiques alliées, ADF, d'être responsable de cet attentat. La RDC et l'Ouganda voisins affrontent depuis fin novembre dans la région de la milice des ADF affiliée au groupe État islamique.
Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, a décrété un deuil national de 48 heures, et ce à partir de dimanche à minuit. C'est après une attaque de djihadistes présumée dans le nord du pays qui a fait 41 morts. Le point avec Bagasikoura.
Ces dizaines de civils et volontaires pour la défense de la patrie ont été tués jeudi dans la zone de Yu, dans le nord du Burkina Faso. La mission de ratissage sur la zone d'embuscade a établi un bilan de 41 corps, affirme un communiqué du porte-parole du gouvernement Alkassoum Maïga. Le président du Faso décrète un deuil national de 48 heures qui a débuté dimanche à minuit, ajoute le texte indiquant que, je cite, l'identification des victimes est toujours en cours. Parmi elles figure Ladji Yoro, considéré comme un leader des VDP au Burkina Faso. Dans des réactions aux correspondants de VOA Africa Ouagadougou, plusieurs Burkinabés ont qualifié sa mort de perte énorme, vu son soutien aux forces armées dans la traque des djihadistes. Le président Kabore avait déjà rendu hommage vendredi à Ladji Yoro. Cet intrépide volontaire pour la défense de la patrie doit être le modèle de notre engagement déterminé à combattre l'ennemi, avait tweeté le chef de l'État.
Le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed a annoncé lundi qu'il suspendait le premier ministre Mohamed Hussein Roble au lendemain d'un différend public à propos des élections longtemps retardées dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique. Les tensions entre le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmadjo, et son premier ministre Mohamed Hussein Roble sont récurrentes. Dimanche, le premier ministre a accusé le président de saboter le processus électoral après la décision du chef de l'État de lui retirer la charge d'organiser les élections longuement attendues et à l'origine d'une grave crise institutionnelle.
Les corps sans vie de 28 migrants ont été découverts samedi soir sur la côte ouest libyenne après le naufrage de leur embarcation. Selon le ministère de l'Intérieur, le Croissant Rouge, Mohamed Abou Chala, le responsable du Croissant Rouge, à Koms, un port de l'ouest de la Libye, a déclaré que 15 corps, dont celui d'un bébé, avaient été repêchés samedi sur le rivage de la ville voisine d'Alous.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, pour son premier Noël à la Maison-Blanche, Joe Biden a loué samedi l'immense courage des Américains face à la pandémie notamment et les a appelés à chercher la lumière et l'unité dans les épreuves. Le point avec Michel Joseph.
Cette année, nous avons vu l'immense courage, force, résilience et détermination de tous ceux d'entre vous qui soignent, réconfortent, enseignent, protègent et servent le pays de grande ou petite manière, écrit le président américain dans un message également signé par son épouse Jill Biden à l'occasion de la fête chrétienne. Nous prions pour la promesse de l'Évangile, celle de trouver la lumière dans les ténèbres, ce qui est peut-être l'entreprise la plus américaine qui soit, lit-on encore dans ce message de Joe Biden, fervent catholique. Joe Biden et Joe Biden, accompagnés de leur nouveau compagnon à quatre pattes, un chiot berger allemand portant le nom martial de Commander, ont aussi participé à un entretien virtuel avec des militaires, En tant que commandant en chef, je voulais saisir cette occasion pour vous dire merci, merci, merci. Vous êtes la colonne vertébrale en acier de cette nation, a encore dit le président.
La Russie examine une proposition de l'OTAN l'invitant à entamer le 12 janvier des pourparlers sur ses attentes en matière de sécurité, a déclaré dimanche le ministère russe des Affaires étrangères. Dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Moscou et Washington sur le dossier ukrainien, la Russie a mis en garde contre le risque d'une confrontation majeure avec l'Occident si les États-Unis et leurs alliés ne réfléchissent pas sérieusement à apporter des garanties de sécurité à Moscou.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Martin Griffiths, c'est dit dimanche, horrifié par les informations sur une attaque contre les destinés civils en Birmanie le 24 décembre. Un porte-parole de l'agente Zaw Min Thun a admis pour sa part que des affrontements avaient éclaté dans cette zone vendredi et que les soldats avaient tué un certain nombre de personnes sans donner plus de détails. L'ONG Save the Children avait annoncé ensuite que deux membres de son personnel en Birmanie étaient portés disparus.
À présent, la page de sport avec Élisée Oumbati. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Jean-Roger et bonjour à tous.
Football pour commencer avec la Coupe d'Afrique des Nations, le compte à rebours est lancé.
Oui, et c'est dans deux semaines le coup d'envoi entre le Cameroun et le Burkina Faso. Les sélections qualifiées ont publié leur liste de joueurs qui vont prendre part à la compétition. Le Nigeria, avec la toute première sélection d'Augustine Egwavon, le nouveau sélectionneur des Super Eagles. Il a convoqué notamment Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, pourtant pressenti forfait à cause d'une blessure au visage. Odion Ighalo aussi a été retenu après qu'il soit sorti de sa retraite internationale. Sinon pour le reste, ce sont des habitués. Alex Iwobi, Ahmed Moussa, Kelechi Iheanacho, Wilfried Ndidi, Samuel Chukwueze, William Ekong ou encore Léon Balogun. Logé dans le groupe D, le Nigeria affrontera l'Égypte, le Soudan et la Guinée-Bissau.
Le Cap-Vert, de son côté, a retenu 26 joueurs avec 5 rescapés de la CAN de 2013.
Il s'agit de Vozinha, Giannini, Rian Mendez, Julio Tavares et Marco Suarez. Le sélectionneur Boubista a aussi fait confiance aux habitués tels Steven Fortes, Gary Rodriguez, Kenny Rocha ou encore Stopira. De retour à la CAN après avoir manqué les deux dernières éditions, les requins bleus croiseront le pays hôte, le Cameroun, l'Éthiopie et le Burkina Faso. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est du 9 janvier au 6 février 2022.
Mais en attendant, on jouait hier sur les pelouses anglaises, comme le veut la tradition, le 26 décembre.
Effectivement, Jean-Roger, c'est le Boxing Day, les matchs du lendemain de Noël, qui ont d'ailleurs tenu toutes leurs promesses. Manchester City a dominé Leicester au terme d'un match fou, score 6-3. Les hommes de Pep Guardiola compte 6 points d'avance sur Chelsea, qui après 2 nuls d'affilée a retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse d'Aston Villa 3-1. Le club londonien revient donc à hauteur de Liverpool, dont son match à Leeds a été reporté en raison de coronavirus. Pour le reste, Arsenal est allé s'imposer 5-0 à Norwich. Tottenham a battu Crystal Palace 3-0 et Southampton est allé battre West Ham 3-2.
On joue aussi les prolongations en Afrique.
Tout à fait. Avec la 14e journée de la Bolota League au Maroc, le Wydad de Casablanca, victorieux 3-2 du Mouloudia Club d'Oujda, consolide sa place de leader avec 35 points. 8 de plus que le Raja qui se déplace aujourd'hui à Rabat pour affronter les militaires. Saison difficile par contre pour la Renaissance de Berkane qui occupe la 6e place. Les hommes de Florent Ibengue ont été tenus en échec 1-1 par le Shabab Mohamedia. Du côté de l'Égypte, en clôture de la 8e journée du championnat, Al-Ahly du Caire n'a mieux fait qu'un nul 1-1 sur la pelouse de Futur FC. Le récent vainqueur de la Super Coupe d'Afrique a été rejoint en tête du classement par son rival le Zamalek, victorieux 4-0 de Gezi.
En RDC, deux matchs ont marqué la 12e journée de la Lina Foot.
Oui, deux belles affiches. Et le leader, le tout-puissant Mazembe de Lumumbashi, a été accroché à Kindu par l'AS Maniema Union 0-0. Un résultat qui profite à son dauphin l'AS V Club vainqueur 2-1 de Blessing de se rapprocher à 6 points avec deux matchs en retard. En Côte d'Ivoire, rien n'arrête la SEC d'Abidjan. Les Mimo réalisent un énorme début de saison en enchaînant leur 6e victoire en autant de matchs, 1-0 face à Assi Dambengourou. Les hommes de Julien Chevalier gardent leur avance sur le Sporting Club de Gagnoa, vainqueur 1-0 du Stella Club d'Adjamé. Et puis, ça joue aussi en NBA. Et avec vous, Jean Roger, les résultats de la nuit.
Oui, Élysée, Denver est venu à bout des Clippers de Los Angeles, 103-100. Philadelphie a vaincu Washington, 117-96. Les Bulls de Chicago ont défait Indiana, 113-105. Oklahoma City remporte la mise face à la Nouvelle-Orléans, 117-112. Cleveland a dominé Toronto, 144-99. Miami a battu Orlando, 93-83. San Antonio a fait une bouchée de Détroit, 144-109. Et Memphis a pris le meilleur sur Sacramento, 127-102. De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Desmond Tutu, la dernière des grandes figures de la lutte contre l'apartheid, est décédé hier à 90 ans. Prix Nobel de la paix en 1984, Monseigneur Tutu s'est éteint peu après l'aube dans une maison de repos affaiblie par un cancer. Pour parler de son héritage, Eric Manirakiza a joint dans le Maryland Karine Kaneza Nantulia, qui a rencontré Desmond Tutu et travaillé pour sa fondation à Johannesburg.
C'est une réaction qui est triste, comme tout le monde peut s'y attendre. L'archevêque a joué un rôle prédominant, non seulement au sein de l'Afrique du Sud, mais il laisse quand même tout un concept basé sur le respect des droits de l'homme, la réconciliation comme précondition pour une paix durable dans tout pays qui sort d'un conflit.
Il a combattu l'apartheid. C'est quelqu'un aussi qui n'hésitait pas à dénoncer la dérive de l'ANC au pouvoir. Il laisse un héritage impressionnant derrière lui. Est-ce que vous pensez que le pays arc-en-ciel, comme il aimait l'appeler, va pouvoir perpétuer son héritage? Comment?
Je pense qu'il pourra le perpétuer à condition qu'il se rappelle justement de l'œuvre de l'archevêque. Il faudrait se rappeler que l'archevêque laisse derrière lui quand même une bibliothèque assez importante, des œuvres, des livres en l'honneur de sa mission, un centre, une fondation justement que lui et son épouse, Madame Léa Tutu, ont mis en place. Il y a un ensemble justement d'outils que le gouvernement sud-africain pourra utiliser et mettre à la disposition du peuple sud-africain et non sud-africain. Mais je pense que le plus important, c'est pour le gouvernement de garder et de réclamer, d'approfondir sa position de leadership au niveau du continent africain, qu'il a perdu depuis quelques années. Il faudra se rappeler que jusqu'à la fin de sa vie, l'archevêque se sera toujours battu, non seulement pour l'égalité, la préservation, la dignité humaine, non seulement des Sud-Africains, mais des Africains au-delà des frontières sud-africaines.
Karine Kaneza Nantulia, ex-employée de la Fondation Desmond Tutu à Johannesburg. Nouveau massacre, nouveau deuil national au Burkina Faso. Après 48 heures de silence, le gouvernement a annoncé samedi que 41 personnes avaient été tuées jeudi dernier lors d'une attaque terroriste dans le nord. Parmi les victimes, le célèbre responsable des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, Soumaïla Ganamé Dilagi Yoro. Retrouvons à Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
La mort jeudi de Soumaïla Ganamé Dilagi Yoro dans une embuscade dans le nord a plongé le pays dans une vive émotion. L'homme de 42 ans et père de 8 enfants s'était engagé à défendre sa province du Louroum contre l'invasion terroriste. Il a été tué jeudi avec 40 autres personnes. Les Burkinabés gardent en mémoire l'image d'un patriote.
Franchement, c'était une mauvaise nouvelle pour la nation parce que c'était un monsieur vraiment brave qui luttait vraiment pour sa patrie et pour l'intérêt de la nation. Vraiment, la nouvelle nous a frappé vraiment. C'était triste. Plusieurs fois aussi, il a demandé à ce que l'État aussi essaie de donner les moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Nous aussi, on a constaté sa mort brusque. On souhaite vraiment que Dieu favorise la paix pour notre chère patrie, le Burkina Faso, et que vraiment cette histoire de terrorisme prend fin.
On est meurtri, on est dépassé, on est désolé par sa disparition en tant que telle. Nous entendons souvent ce qui se passe entre Waïguia et Titao. Cette personne est en train de lutter avec ses éléments contre ce terrorisme en question. Donc s'il a demandé une aide des autorités, je pense que c'est réel.
Même les partisans du pouvoir pleurent cette disparition.
Le soldat Yoro ne devait pas mourir. il faut le dire.
Aziz Dabo est le vice-président de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, un parti proche du pouvoir en place.
Avec ses hommes, lui devant, ils incarnaient l'espoir, le courage au combat dans les rangs des volontaires pour la défense et la patrie, surtout dans la province du Loroum et partout au Burkina Faso. Il s'est révélé à l'opinion publique nationale et internationale à travers des vidéos où il appelait au combat, où il appelait à la défense de la patrie, où il interpellait les autorités en place à accompagner les volontaires pour la défense et de la patrie pour venir à bout du terrorisme.
On perd plus qu'un symbole, c'est un euro.
Albert Nagreogo est le directeur de publication du site en ligne Libre Info.
Depuis l'annonce de l'embuscade dans la soirée de jeudi, la toile au Burkina s'est enflammée et vous avez vu que sa mort a été confirmée vendredi. Immédiatement, le chef de l'État a réagi sur Twitter pour dire qu'il est mort pour la patrie. Ça va s'apparenter pour une grande victoire pour les groupes armés terroristes parce que il y a très longtemps, il était dans le viseur des groupes armés terroristes. Il était recherché par les groupes armés terroristes. Le Burkina pleure aujourd'hui un euro quand même qui s'est donné corps et âme dans la lutte contre le terrorisme.
Ladji Yoro a été inhumé hier dimanche à Waiguia, capitale de la région du Nord. Il a été décoré par les autorités à titre posthume. Le président Roch Kabore a décrété un deuil national de 48 heures allant du dimanche 26 décembre 2021 à 0 heures à ce lundi 27 décembre à 24 heures. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Une opération est en cours pour rapatrier des milliers de réfugiés congolais de Zambie. Ils doivent retourner dans les maisons qu'ils ont fui il y a 4 ans, craignant pour leur vie. Un reportage de Lisa Ashlen pour VOA depuis Genève. Le récit est de Marius Munga.
Les affrontements interethniques et les combats entre les forces de sécurité congolaises et les milices dans certaines parties du sud-est de la République démocratique du Congo ont déclenché un exode massif de réfugiés vers la Zambie en 2017. Les violences dans la province du Haut-Katanga se sont calmées, permettant le retour en toute sécurité des réfugiés dans leur pays d'origine. Par conséquent, près de 5000 réfugiés congolais ont décidé de rentrer chez eux sous l'égide de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et les autorités zambiennes. Un premier groupe de 100 personnes a quitté mardi le camp des Mantapala dans la province zambienne de Luapula pour le territoire de Pweto dans le Haut-Katanga. Selon le porte-parole du ACR, Babar Balok, la sécurité dans la région s'est suffisamment améliorée pour permettre le retour des réfugiés dans la sécurité et la dignité.
Nous devons aller vérifier auprès des réfugiés leurs intentions. Pour nous, le moment est propice au retour quand les réfugiés le décident. Avant même le début de ce retour volontaire assisté, certains réfugiés étaient déjà rentrés en RDC dans cette partie du pays.
Balok rapporte qu'environ 20 000 réfugiés ont spontanément quitté la Zambie depuis 2018 pour retourner dans leur région d'origine, principalement sous le territoire de Pweto. Babar Balok indique que 2 bus et 2 camions ont transporté le premier groupe de réfugiés et leurs biens jusqu'à leur foyer en RDC. Il ajoute que les rapatriés recevront une allocation en espèces pour les aider à reprendre leur vie en main.
La communauté humanitaire reste engagée avec la Zambie, du côté zambien, mais aussi du côté congolais où nous sommes présents. Le ACR travaille avec les autorités de la RDC et d'autres partenaires sur des projets de réintégration, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture.
Le ACR assure que le rapatriement volontaire se poursuivra jusqu'en 2022, jusqu'à ce que tous ceux qui souhaitent rentrer soient installés en toute sécurité chez eux.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La capitale du Gabon, Libreville, vit au rythme de la première édition de la foire du panier de la ménagère à petit prix. L'initiative du gouvernement a pour but de permettre aux populations de s'approvisionner en produits de grande consommation à moindre coût. Ouvert officiellement le 22 décembre, cet événement s'étalera jusqu'au 2 janvier. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Ce n'est pas encore la foule des grands jours sur le site de la foire. Au troisième jour des ventes, Cédric Kouéti ne veut pas désespérer pour son riz qui attend toujours les clients.
Toute la population gabonaise va être au courant de tout ce qui se passe en ce moment. Donc on essaie de vendre ce qu'on peut vendre par jour. Une fois que toute la population serait au courant, je pense qu'ils n'iront plus dans les magasins. Forcément, ils ne penseront pas à l'espoir d'ici, ils vont aller se ravitailler au plus bas par rapport au magasin. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à 11-13 tonnes de ventes en 3 jours.
Parmi les exposants de cette première foire du panier de la ménagère figurent ceux du secteur de l'agro-industriel spécialisé dans l'importation et les producteurs locaux. Karen Rokiando représente la société de transformation agricole du Gabon à ce rendez-vous.
Nous voulons être encore plus proches de nos consommateurs. C'est pourquoi nous participons à différentes expositions et à différentes foires pour que les Gabonais aujourd'hui sachent où se procurer les produits Sotrader.
À la demande du gouvernement, les exposants ont revu à la baisse leurs prix et cela se ressent au détour de chaque stand. Georgette Tomba, une visiteuse de l'exposition, témoigne.
Quand je regarde ce qui se passe autour de moi, je me rends compte que ça peut vraiment alléger le panier de la ménagère parce que je vois des sacs de riz qu'on achète à 20 000 francs, qu'on nous propose à 16 000 francs. L'huile qui est à 1 200 ou 1 300, c'est déjà à 1 000 francs.
Depuis l'apparition de la crise sanitaire au Gabon, la vie chère s'est accentuée dans les grands centres urbains comme Libreville. Cette initiative, bien que soutenue par les autorités, est trop ponctuelle pour emballer Goldie Mbuka, une cliente de la foire.
Quand on sort de cette semaine, on retombe dans les mêmes prix qu'avant, puis on va pas régler le problème. Publicité qui va interpeller ces gens-là pour voir les prix sur le marché.
Le gouvernement maintient qu'il travaille à la lutte contre l'inflation sur le marché. Le Gabon vit une vague inflationniste sans pareil. Selon les chiffres officiels, l'indice des prix à la consommation des ménages du pays au mois de novembre 2021 observe une hausse de 0,5% par rapport au mois d'octobre 2021. Et en comparaison au trimestre dernier, cet indice a augmenté de 0,6%. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
Voilà, ce sera tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Billon et Rosine Monezero. À la mise en onde, Michel Joseph et à la technique, Elvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à tous à l'écoute de VOA Afrique.